2. La légende. Noël Torek, ou Chantepie, comme on l'avait surnommé à cause de son gai caractère, était le fils d'un ami d'enfance de Toussaint. Il demeurait d'ordinaire près de la vieille mère de ce dernier, au petit fief de Gourla, de l'autre côté des marais. Bien que la distance de Gourla au château de Malétroit fût considérable, Noël montait souvent à Bidet pour aller porter des macres, produits de sa pêche, ou mieux, de sa moisson, à la dame de Malétroit, si belle et si bonne pour ses vassaux. En ces occasions, il passait la journée avec Toussaint, s'étonnait parfois en mesurant l'intelligence précoce et l'infantine intrépidité de son élève. Noël quittait le château vers la brune. Il retrouvait son chaland attaché au saule de la rive et traversait le marais par la nuit la plus noire comme il l'eût fait en plein jour. Le marais était son domaine. Il eût indiqué, les yeux fermés, la place exacte de chaque bas-fond et de chaque tournant. Lui seul, peut-être, aurait pu dire, à une brasse près, la distance à laquelle on pouvait s'approcher impunément de ce terrible gouffre de Trémelay, au-dessus duquel planait ce spectre gigantesque que les paysans nommaient la femme blanche. Toussaint, tout en galopant sur la route de Redon, avait laissé son esprit à Malétroit. Il pensait douloureusement au péril qui menaçait Noël, demeuré à la merci de Plélan, pour qui le meurtre était un passe-temps et un plaisir. Marguerite elle-même, préoccupée qu'elle était par son malheur, songeait parfois à l'intrépide enfant qui s'était dévoué pour la sauver. « Nous pouvons ralentir notre course, madame, » dit enfin Toussaint. « Noël Torek est entre nous et les Huguenots. Il les empêchera de nous suivre. »« Pauvre jeune homme, » murmura Marguerite. « Les gens de Rohan sont impitoyables. S'ils allaient le tuer !» Toussaint se sentit frémir. « Ils sont impitoyables, en effet, » murmura-t-il d'une voix sourde. « Madame, il faut nous recueillir et prier du fond du cœur, car Dieu seul peut sauver à présent ce généreux enfant. » Toussaint se découvrit et commença une oraison à voix basse. La dame de Malétroit l'imita, puis tous deux poursuivirent leur route, en silence, au milieu d'une nuit sans lune, et guidés seulement par la parfaite connaissance que Toussaint avait du pays. « Monseigneur, dit cependant Chantepie à Guy de Plélan, lorsque les derniers hommes d'armes eurent passé la trappe du souterrain de Malétroit. La recherche peut être longue. Vous plairait-il, pour charmer l'ennui de l'attente, vider quelques flacons ? Guy frappa sur le broc qui était à côté de lui, sur la table. « Fi ! Reprit Noël Torek en souriant avec mépris. « Ceci est vin de vassal. Je connais une cachette où Gilbert de Malétroit, père de Messire Amaury, mettait son vin de Gascogne. Je puis vous fournir à l'instant un flacon centenaire, monseigneur. Gautier, dit Plélan à l'une des sentinelles, prends cet honnête garçon par le bras et mène-le chercher le flacon qu'il m'annonce. Va, Chantepie, mon ami, je boirai volontiers de ce bon vin à ta santé. Noël tendit en souriant sa main à la sentinelle. Bien que Plélan l'observât attentivement, il ne put découvrir aucun signe d'humeur ou de désappointement sur son gai visage. « Cet enfant est sincère, » se dit Plélan en le suivant du regard. « Il m'a donné la vraie piste de Madame Marguerite, et je vais enfin tenir cette fière châtelaine en ma puissance. Ah ! Malétroit ! Malétroit ! Toi qui m'as humilié, vaincu, déshonoré, que me donneras-tu pour que je te rende ta femme et ton héritier ?» Chantepie rentra en ce moment avec la sentinelle qui portait un panier de flacons poudreux et humides. L'œil de Plélan s'anima à cette vue. « Garçon, dit-il, tu es fait pour servir un gentilhomme. Veux-tu être mon page ?» Noël s'inclina respectueusement. « Votre page est votre échanson, monseigneur, » répondit-il en versant à Plélan une ample rasade. Plélan but. Chantepie versa de nouveau, et Plélan but encore. Quand le premier flacon fut vide, Plélan tira son couteau et brisa le goulot de la seconde bouteille. « Oh, oh ! » dit-il d'une voix déjà rendue rauque par un commencement d'ivresse. Ce coquin de papiste, Guibert de Malétroit, se connaissait en vain, sur ma parole. Verse, Ganymède, à moi d'abord, puis à ces braves, tant qu'ils voudront, puis à toi, mon fils, puis au diable, s'il en veut. À propos de diable, n'ai-je point vu remuer le portrait de cette sorcière maudite ? Il montrait Ermengarde, dont le sévère et mélancolique visage semblait en effet s'animer aux vacillants reflets des lampes. « Silence, par pitié pour vous-même » murmura Noël Thorec en affectant une subite épouvante. « Pourquoi silence ?» demanda rudement le huguenot. « N'avez-vous donc jamais entendu parler de la femme blanche des marais, monseigneur ?» demanda Noël à son tour, au lieu de répondre. « Si fait, mais que m'importe cela ?» Ermengarde a trouvé moyen jusqu'ici de protéger sa race, dit l'enfant d'une voix grave, et bien des ossements couvrent le sable au fond du tournant de Trémelé. Guy de Plélan éclata de rire. « Mort de ma chair ! » s'écria-t-il. « Je permets à la sorcière de joindre mes ossements à ceux dont tu parles, quand il me viendra fantaisie d'engager avec elle un combat naval. Jusque-là, buvons. Hors ça, chantepie, mon joyeux page. Je veux parier que tu sais quelque ballade. »
« Je n'en sais qu'une, monseigneur. »
« Laquelle ?»« Une vieille légende que m'enseigna un serviteur de Messire Amaury. » « Que dit-elle, ta légende ?»«
L'histoire de la femme blanche des marais. »
« Toujours la femme blanche. N'importe. Il me plaît de savoir quelle grimace fera Madame Ermengarde en écoutant le récit de ses faits et gestes. Remplis les coupes et dis-nous ta ballade. »
« Que votre volonté soit faite, monseigneur. »
Chantepie versa rasade au capitaine et à ses deux hommes d'armes. Ensuite, sur l'ordre de Plélan, qui craignait toujours une évasion, il se plaça au milieu d'eux et se prit à réciter, d'une voix lente et monotone, une prose cadencée et sans rime, où quelques poètes rustiques avaient consigné l'histoire de Madame Ermengarde de Malétroit.
Légende de la femme blanche.
Les gens de Malétroit feront dire des messes, ils prieront à l'église paroissiale tendue de noir, car Madame Ermengarde est morte, morte au tournant de Trémelé. Hervé, notre seigneur, est fils d'Alain de Malétroit. Sa fille, quand elle était encore de ce monde, avait nom Ermengarde. Il n'y avait point à Nantes, la grande ville du riche duc, il n'y avait point à Rennes, qui est la capitale du pays breton, il n'y avait point ailleurs de dame ni de damoiselle qui pût disputer le prix de la beauté à la fille de Malétroit. Les seigneurs suivaient de loin sa noire acnée en disant « Qui sera son époux ?» Puis ils se regardaient avec des yeux farouches et leurs gantelets d'acier retentissaient en touchant la poignée de leur dague. Le duc François mourut. Madame Anne eut la Bretagne en héritage. On vit des hommes d'armes de France chevaucher sur le pays breton. Hervé avait dit « Je ne veux pas ». Il suspendit à son flanc sa bonne épée et ses vassaux se rangèrent autour de lui. Ils allèrent, au nombre de 100 hommes portant la lance, jusqu'à la ville de Redon, où coule la rivière de Vilaine. Il y avait à Redon des hommes d'armes de France qui les reçurent vaillamment. On combattit. Malétroit fut vaincu. Ce fut la veille de la Chandeleur. Ermengarde avait quitté le château et passé les marais. Elle attendait son père au fief de Gourlat. Malétroit revint, suivi de près par les gens du roi de France. « Seigneur, dit à Hervé le capitaine français, tu es faible, nous sommes forts. Mes soldats ont pris ton château de Malétroit, et je vais forcer ton dernier asile. Donne-moi ta fille, Ermengarde, la belle, dont je ferai mon épouse, et mes hommes d'armes reprendront le chemin de Redon, et je te rendrai ton château de Malétroit. » Hervé avait monté sur la muraille du manoir pour entendre le capitaine français. Il alla trouver sa fille et lui dit, le français t'aime, et il est le plus fort, mais ta volonté sera faite. »
Monseigneur, répondit Ermengarde la Belle, un homme n'aura point ma main parce que j'ai donné mon cœur à Dieu.
Le français entra en grande fureur. Il fit une brèche à la faible muraille du manoir et entra. Les serviteurs de Malétroit moururent. Ils moururent tous, jusqu'au dernier. Alors Ermengarde saisit le bras de son père et l'entraîna vers les marais. Sur le rivage, il y avait 3 chalands. Hervé monta sur l'un et Ermengarde le poussa du pied au large, malgré son père qui l'appelait. Elle monta sur le second et quitta la rive. Le capitaine et ses hommes, qui accouraient à la poursuite du fugitif, se jetèrent dans le troisième. Il n'y avait ni rame ni perche dans le chaland d'Hervé. Ermengarde les en avait retirés. Le chaland s'en alla à la dérive vers les bas-fonds du haut marais. La fille de Malétroit envoya à son père un baiser d'adieu et nagea vers le courant de l'Oust, qui formait une ligne blanche au milieu des eaux vertes du lac. Les Français restaient indécis. Lequel poursuivre ? Ermengarde était assise à la poupe de son chaland. Elle souriait et semblait appeler les Français du regard. Le Français fit pousser vers Ermengarde la Belle. Le sourire d'Ermengarde s'épanouit davantage. Elle donna quelques coups de rame. La proue de sa barque toucha le courant de l'Oust et, virant aussitôt, se mit à suivre la rapide rivière. « Ferme sur aviron !» cria le Français. « Gagnons, nous aussi, le courant !» Il gagna le courant. Le crépuscule du soir tombait. On entendait au loin un bruit sourd, incessant, inexplicable. « Quel est ce bruit ? » demanda le Français. Nul à son bord ne sut lui répondre. Ce bruit, c'était le tournant de Trémelé, au-dessus duquel ne planait point encore la femme blanche. Le chaland d'Ermengarde la Belle fendait l'eau comme une flèche fend l'air. La barque du Français le suivait de près. Le bruit du tournant n'était plus ni sourd ni lointain, il était éclatant et terrible. Tout à coup, le Français vit Ermengarde la Belle se mettre à genoux et prier. Puis, elle fit un signe de croix et demeura immobile. « Ferme sur les avirons !» cria le Français. Son chaland bondit et toucha presque la barque d'Ermengarde la Belle. Mais, en ce moment, la barque d'Ermengarde la Belle tourbillonna et disparut. Elle avait touché la lèvre du tournant de Trémelé, dont l'écume blanchâtre et lumineuse entourait déjà les Français. « Arrière !» cria le capitaine. Il n'était plus temps. Le tournant saisit la barque, la fit pirouetter une minute et la précipita, broyée au fond du gouffre. Chantepie s'arrêta. Plus il avançait dans sa ballade, plus sa voix devenait monotone et voilée. Il avait son projet. Les 3 huguenots avaient continué de boire. Et, complètement ivres, ils avaient mis leur tête sur la table. Mais, avant de se livrer au sommeil, Plélan, par un dernier éclair de raison, avait ordonné aux 2 sentinelles de saisir chacun une main de Noël. Lui-même tenait son bras passé dans la ceinture de l'enfant. Noël, ainsi serré de près, voulut voir jusqu'à quel point était profond le sommeil de ses gardiens. Il cessa de parler, mais un grognement de Guy lui prouva que son nouveau maître avait besoin d'être bercé encore, et il reprit aussitôt. « Voilà pourquoi les gens de Malétroit prieront et pleureront dans la chapelle tendue de noir. C'est parce que Madame Ermengarde est morte, morte au tournant de Trémelé. Les Français périrent, et Messire Hervé fut sauvé. Depuis ce jour, qui ne l'a vu ? Madame Ermengarde revient chaque nuit, planée au-dessus du gouffre qui fut son tombeau. Elle revient, parce que sa mort fut volontaire,
et qu'elle sauva ainsi son père au moyen d'un péché. Elle revient. Les gens de Malétroit prient depuis bien longtemps pour elle. Mais qui peut dire quel temps Dieu a mesuré pour l'expiation de sa faute? Elle revient. Et si un Malétroit se trouve en danger sur les marais, par une nuit de tempête, elle éloigne sa barque du trou de Trémelay. Mais si un ennemi de sa maison s'approche et ose braver, après le coucher du soleil, son terrible voisinage, elle étend son long bras de brouillard et attire sa barque avec une force invincible. Puis elle la tord comme une poignée de chaume et jette ses informes débris aux profonds abîmes du tournant. Les gens des marais la craignent et salue de loin sa forme gigantesque. Ceux qui l'ont approchée d'assez près pour toucher sa robe diaphane étaient des gens hardis et téméraires. Ils n'ont point revu l'herbe verte du rivage, et leurs os sont semés comme des cailloux au fond du courant de l'Oust. Ceci est la légende de la femme blanche qui garde la nuit le tournant de Trémelay. Depuis quelques minutes, la voix de Noël faiblissait insensiblement. Après ces derniers mots, il continua de faire entendre un murmure indistinct et sans cesse décroissant. Pendant cette deuxième portion de son récit, le matois enfant n'était point resté oisif. Rapprochant doucement les mains des deux soldats qui le tenaient à droite et à gauche, il avait dégagé les siennes avec des précautions infinies. Et mis à leur place les deux mains de Messire Guy lui-même, qui dormait d'un sommeil de plomb. Cela fait, il emprunta le poignard d'un des gardes et coupa sa ceinture, qui resta suspendue au bras du capitaine Huguenot. Il était libre et ne put s'empêcher de faire un bond de joie. Mais, craignant le retour prochain des hommes d'armes engagés dans le souterrain, il réprima toute imprudente manifestation et descendit aux écuries, où il sella un cheval pour partir bientôt au galop. Quand Guy de Plélan s'éveilla le lendemain matin, il fut fort surpris de sentir ses deux mains serrées comme dans un étau. Ces deux hommes d'armes, de leur côté, ne furent pas médiocrement étonnés de se retrouver face à face avec leur chef devant une douzaine de flacons décapités. Leurs idées, vagues et indécises, comme toujours le lendemain d'une orgie, résistaient obstinément à l'effort qu'ils faisaient pour comprendre. Ils se regardaient, tous les trois, ébahis. Enfin, Guy de Plélan reprit souvenir de ce qui s'était passé la veille. « Qu'avez-vous fait de Chantepie ? » demanda-t-il tout à coup. Ce fut, pour les soldats, un trait de lumière. Ils parcoururent la salle du regard et baissèrent la tête. « Mort de mes os ! » cria Plélan. « Le drôle nous a échappé. Je devine tout maintenant. » Il était d'accord avec la dame de Malétroit, et nos hommes d'armes vont revenir les mains vides. Le jour commençait à poindre lorsque Toussaint et Marguerite de Guerre atteignirent les bords des marais de l'Oust. Leurs chevaux, rendus de fatigue, se couchèrent épuisés sur l'herbe humide. La dame de Malétroit, en mettant pied à terre, s'élança vers son fils, que Toussaint tenait toujours dans ses bras, et le pressa passionnément sur son cœur. « Que pourra faire Amaury de Malétroit pour payer votre dévouement, Toussaint ? » dit-elle en adressant au fidèle serviteur un regard de reconnaissance. « Vous avez sauvé tout ce qui lui est cher en ce monde. »« Sauvé ? » répéta Toussaint avec un air de doute et d'hésitation. « Dieu le veuille !» Il se courba et approcha de terre son oreille. « C'est le pas d'un cheval, » murmura-t-il. « Dans 10 minutes, il nous aura rejoints. » « Que dites-vous ? » s'écria Marguerite, épouvantée. « Il faut que nous nous embarquions sur le champ, madame. Quand nous serons sur l'autre bord et que j'aurai fermé sur vous la porte de la chambre secrète de Gourlat, vous pourrez dire que je vous ai sauvée, pas avant. » Il fit une centaine de pas le long du rivage et découvrit bientôt un chaland amarré au saule. Le bateau était vieux et semblait hors d'usage. L'eau filtrait à travers les haies mal joints. Toussaint hésita un moment, mais les pas du cheval étaient maintenant bien distincts et s'approchaient rapidement. Toussaint sauta dans le chaland, vida l'eau tant bien que mal, et commença à percher de toute sa force après avoir embarqué Marguerite et son enfant. Note. Percher. On se sert de ce mot dans les marais pour exprimer l'action de conduire un chaland avec une perche. Fin de note. À peine avait-il quitté le rivage que le cheval déboucha du chemin pierreux qui conduisait au bord de l'eau et courut silencieusement sur l'épaisse pelouse qui étouffa soudain le bruit de ses pas. Le jour était encore bien faible. Toussaint vit confusément cheval et cavalier glisser rapidement dans l'ombre, en suivant les sinuosités du rivage. Puis tout disparut derrière un bouquet de saules. Marguerite de Guerre poussa un long soupir de soulagement. Toussaint secoua tristement la tête. Ils avançaient lentement. Le chaland était lourd et faisait haut de toutes parts. Toussaint se demandait si l'eau ne le gagnerait pas avant de toucher l'autre bord. La partie des marais où s'étaient embarqués nos fugitifs est la plus difficile à traverser, à cause des langues de terre et des prolongements qu'il faut doubler. Il y avait une grande demi-heure que Toussaint perchait sans relâche, et la sombre ligne que formait la rive droite qu'il venait de quitter semblait à peine éloignée d'un millier de pas. D'un autre côté, le jour ne s'éclaircissait point. Au loin, dans la direction du large, la forme colossale de la femme blanche se distinguait comme en pleine nuit, mais l'ombre restait trop épaisse pour qu'on pût reconnaître le cours de l'Oust. Bien des années s'étaient passées depuis que Toussaint avait quitté les marais pour devenir l'un des serviteurs du château. Pourtant, il n'avait pu entièrement oublier les signes caractéristiques et frappants qui annoncent la venue des brouillards d'automne. Il vit, avec terreur, des flacons de vapeurs blanchâtres et cotonneuses courir le long des bords de son chaland, disparaître, puis revenir plus denses et plus ondées. En même temps, les étoiles qui brillaient encore au firmament semblèrent grandir et prirent une teinte blafarde. Le vent cessa tout à coup. La femme blanche élargit en tous sens ses proportions d'une façon démesurée et couvrit en un clin d'œil une moitié de l'horizon. Toussaint cessa de percher et croisa ses bras sur sa poitrine. « Que faites-vous ? » s'écria Marguerite. « Pensez-vous qu'il soit prudent ? Audace et prudence nous sont également inutiles désormais, madame, » interrompit Toussaint, dont le regard exprimait un morne désespoir. « Le ciel m'est témoin que je donnerais de bon cœur tout mon sang pour vous sauver, mais il appartient à Dieu seul maintenant de vous venir en aide. » La dame de Malétroit leva sur lui son œil plein d'étonnement. L'eau du marais était calme et polie comme un miroir. « Quel danger nouveau peut donc nous menacer ? » demanda-t-elle. Toussaint étendit la main vers l'endroit où se dessinait naguère la forme de la femme blanche. « Regardez, » dit-il. Marguerite regarda et se prit à sourire. « Je ne vois rien, » répondit-elle, « si ce n'est un rideau de brouillard qui, selon le proverbe, nous promet une journée de beau soleil. » Toussaint baissa les yeux. La confiance de sa maîtresse en ce moment suprême lui serra le cœur. « Hélas, madame, » dit-il seulement et à demi-voix, « ce beau soleil tardera trop à venir pour que nous puissions le voir. » « Est-il possible ? » s'écria la pauvre mère, passant subitement de la sécurité à l'épouvante. « Ne pouvons-nous pas au moins sauver mon fils ?» Toussaint ne répondit point. Mais jetant là sa perche, il se mit à vider l'eau du chaland avec son chapeau de paille. Pendant qu'il se livrait à cette occupation, la muraille de brouillard approchait. Bientôt le bateau fut entouré d'un voile épais qui cachait à la fois l'eau, la terre et le ciel. « je comprends à présent !» s'écria Marguerite de Guerre en pressant convulsivement son fils entre ses bras. Toussaint vidait le bateau sans relâche. mais de nouvelles fissures se déclaraient à chaque instant, et l'on pouvait en quelque sorte calculer le moment où le chaland serait inévitablement submergé. « Tout est fini, » murmura enfin Toussaint, en tombant épuisé. Tant que Marguerite de Guerre avait vu travailler son fidèle vassal, elle avait conservé un reste d'espoir. Ce dernier mot fut pour elle comme un arrêt de mort. Elle se mit à genoux et pria. Puis, regardant son fils, qui dormait paisiblement sur son sein, elle dit « Mon Dieu, j'étais une heureuse femme et une heureuse mère. Que votre volonté soit faite !» Puis encore elle ferma les yeux et attendit la mort. Toussaint, lui, affolé par le danger de sa maîtresse, contemplait d'un œil morne l'eau du marais, qui effleurait déjà le plat-bord du chaland. À ce moment, une voix claire et enfantine, peut-être la voix d'un pâtre paissant ses brebis sur la rive, perça le brouillard et apporta au malheureux agonisant les notes joyeuses d'un refrain du pays.